Rien n'est joué, une production de Madeleine Caboche.
Bonjour à toutes, bonjour à tous avec la collaboration ce matin de Lydia Gabor pour la partie reportage. Bonjour Lydia.
Bonjour Madeleine.
Ce matin, nous vous embarquons au musée d'ethnographie de Neuchâtel pour visiter cette exposition qui a retenu notre attention avec un titre alléchant, enfin à voir s'il est alléchant. Qu'est-ce que vous faites après l'apocalypse? What are you doing after the apocalypse? Un projet mis sur pied par vous, Marc-Olivier Gonzette, que je salue, conservateur du musée depuis 2006 maintenant. Hein.
C'est ça, oui.
C'est une longue affaire. Vous étiez de toute façon déjà dans la maison
J'étais
depuis...
dans la maison depuis une quinzaine d'années.
Depuis une quinzaine d'années aux côtés de Jacques Hénard. Et puis voilà, vous voilà à la tête de ce musée depuis un moment où vous nous présentez de belles expositions sur le bruit, notamment la précédente. Et ici, réflexion sur l'apocalypse. Alors, a priori, on se dit qu'est-ce que vous faites après l'apocalypse? On se dit que c'est un mode plutôt rieur pour envisager la question, alors que nous sommes abasourdis par toutes les révélations du calendrier Maya. On nous annonce le pire pour le 21 décembre 2012. Beaucoup de scientifiques contrarient cette affirmation, les astronomes aussi. Et pourtant, nous, même si on se dit, voilà, c'est complètement irrationnel, c'est bien, ça fait mousser la presse, il y a un petit quelque chose où le 21 décembre 2012, on sera peut-être un peu mal quand même, non? Je ne sais pas vous, Marc-Olivier Gonzette.
Oui, on a déjà aussi passé le 1er janvier de l'an 2000, oui. Où finalement on nous prédisait aussi que les 1000 ans qui avaient suivi les premiers 1000 ans seraient aussi la fin. Il faut toujours qu'on se mette des sortes d'objectifs. Hein. Alors la fin du monde, c'est aussi un objectif qu'on met toujours devant nous. Et nous, avec notre titre, on voulait aller au-delà de finalement une certaine naïveté à imaginer toujours que tout va finir dans une grande explosion.
Naïveté ou envie de se faire peur?
Mais c'est une propension des humains à vouloir se raconter à la fois leur origine et leur fin. Et puis, comme on est très égotiste, on imagine que cette fin, si elle a lieu, on doit la vivre. On oublie, dans une certaine mesure, que la fin du monde, c'est souvent la fin de son propre monde. C'est-à-dire, c'est nos apocalypses personnelles, finalement, avec lesquelles on vit toute notre vie. Et notre titre, il est ambigu, justement, avec un A minuscule pour apocalypse. Et après... l'idée qu'on va le traverser,
et puis c'est rose, hein. C'est pas noir, c'est rose. Hein.
Voilà,
il y a beaucoup
c'est
de rose,
c'est flashy sur la magnifique affiche qu'ont fait MS Bastien et Isabelle L. Donc, si vous voulez, on vous donne rendez-vous pour un café après l'apocalypse.
Mais après, ça y est, c'est derrière.
Voilà, c'est derrière. Voilà. Parlons d'autre chose. Et gérons, à la limite, gérons les suites, les conséquences de ce que nous venons de traverser. Et c'est quelque chose que j'ai très fortement ressenti dans le travail d'Isabelle.
Alors, on va pas y aller tout de suite parce qu'on va dire qui est là autour
Absolument.
De cette table, parce que nous sommes nombreux ce matin, justement. Il y a Isabelle L, artiste exposée dans un musée d'ethnographie. C'est une démarche un peu particulière, ça, tout à coup, de ne plus être dans une galerie d'art contemporain, d'être dans un musée d'ethnographie, Isabelle L.
De toute manière, on a toujours l'habitude d'être un peu à côté. On est toujours un peu à côté de
Quand
tout.
Vous dites « nous », c'est
Donc,
votre
moi, je suis
compagnon.
50% de l'artiste couple MS Bastien Isabelle L. Si je parle toujours de « nous », c'est nous en tant que couple d'artistes. On a toujours l'habitude d'être à côté. Donc, dans les festivals de bande dessinée, on nous rapproche qu'on fait pas de la BD. Dans les musées d'art contemporain, on nous dit qu'on fait de la BD ou quelque chose d'autre, mais surtout pas de l'art contemporain. Donc, pourquoi pas alors directement aller au musée d'ethnographie? Donc, on se sent tout aussi à l'aise là, même plus que. Et puis, on se sent à l'aise, quoi, d'être toujours un peu à côté. Et puis. En même temps, en plein milieu.
Alors, juste pour compléter la présentation, je vous laisse me présenter, vous, Marc-Olivier Gonzette, le travail, plus précisément, d'Isabelle L. et de son compagnon.
Alors, on avait eu la chance de les rencontrer en faisant une visite de Pascard à travers un personnage qui s'appelle Pulp et leur travail précédent qui s'appelait Bastropolis, qui était une édition. Et on a eu la chance aussi de pouvoir utiliser leur œuvre. On avait entendu parler de cette œuvre. 52 mètres de toile, 32 toiles d'1,60 mètre.
Voilà, ce qu'on voit aujourd'hui
sur les catastrophes,
à Neuchâtel. Hein,
voilà, ce qui est présenté aujourd'hui à Neuchâtel. Mais nous savions que cette œuvre était en circulation et ils nous ont permis dans Bruit, notre exposition précédente, d'en montrer une trace virtuelle. C'est-à-dire on a posé à l'intérieur d'un périscope, qui était le centre de notre installation, un sous-marin, l'horizon des politiques de patrimoine, qui était leur fresque, leur panorama des horreurs du XXe et précédent.
D'accord. Voilà, on va revenir en détail sur la fresque tout à l'heure, qui est effectivement 53 mètres, c'est immense et c'est magnifique. Troisième invité, François Burlan. François Burlan qui a le soleil dans l'œil, mais ça fait rien, vous allez essayer de me parler quand même, on va fermer le store après. François Burlan, ben, on vous a déjà accueilli à cette émission, artiste, bien connu aussi, avec une aventure un peu particulière cette fois, un sous-marin dans le cadre de cette exposition à Neuchâtel. On le décrit ce sous-marin avant de raconter le pourquoi et le comment du fait qu'il soit dans cette exposition autour de l'Apocalypse. Qu'est-ce que c'est que ce sous-marin?
Tu dois le décrire physiquement.
Ouais, physiquement.
C'est un tas de boîtes de conserve et de brindilles de bois assemblées qui finissent par donner une espèce de sous-marin pas très sérieux, qui fait pas très peur.
Quand vous dites boîte de conserve et brindilles de bois, on voit une toute petite chose alors que c'est une espèce d'énorme baleine qui occupe tout un espace.
C'est une baleine échouée qui occupe tout l'espace de la black box du musée, qui l'a fait presque exploser. Mais il est très très fragile, quoi. Donc, quand on le voit comme ça, il a l'air peut-être imposant, mais si on le touche, on passe à travers. C'est un sous-marin de papier. Et, moi, je dis souvent, c'est le seul sous-marin nucléaire qui supporte pas l'eau. Il supporte pas la pluie parce qu'il rouille. Donc, alors il est imposant et tout ça, mais en même temps, il est pas pérenne. Il va très vite s'écrouler sur lui-même. Ouais. Je pense que je pourrais le montrer deux, trois fois. Puis après, il va retourner d'où il vient, c'est-à-dire à la poubelle. Voilà.
Bon, on va revenir en détail sur cette pièce, mais j'aimerais insister sur cette envie de votre part, Marc-Olivier Gonzette, de travailler avec des artistes. Enfin, ce qui n'est pas la première fois, puisque vous citez l'exposition précédente. Donc, ethnographie, appel à des artistes, et puis bien sûr des anthropologues. Mais pourquoi des artistes?
On a l'habitude de décloisonner complètement, en tout cas, les corporations qui auraient les ethnologues d'un côté, ensuite les artistes de l'autre. Et bien sûr, on ne fait pas le même travail, mais on a l'impression que les artistes sont de très bons analyseurs de la société dans laquelle on vit. Et il n'y a aucune raison de ne pas leur donner la parole dans le cadre des discours que l'on tient, à condition de les accompagner, de travailler avec eux ou de présenter leur travail dans un discours qui les englobe. Et c'est pas si évident que ça de trouver des artistes qui sont d'accord, non pas d'être manipulés ou instrumentalisés, mais d'entrer dans un discours englobant. Et je dis chapeau et à François et à MS Bastien et Isabelle Hell d'avoir accepté d'être sous un autre titre avec deux œuvres aussi fortes que celles qui présentent au musée aujourd'hui et de nous avoir permis finalement de faire un troisième volet. Beaucoup, c'est gonflé ça. Hein,
c'est très gonflé.
À côté d'œuvres aussi fortes que ce qu'ils ont présenté, de nous poser comme anthropologues qui avons aussi le droit de développer une démarche esthétique.
Et une pensée, avec un discours.
À mon sens, notre pièce du centre, elle est belle aussi, elle est blanche, elle vous fait un effet également émotionnel fort. Donc,
alors, pièce du centre, toute blanche, avec des interventions, cette fois, d'anthropologues.
Alors, avec des collègues anthropologues de l'Institut d'Ethnologie qui ont accepté de livrer les résultats de leurs travaux qui tournaient autour de problèmes graves, la question de la faim de quelque chose et en fait surtout du début d'autre chose. C'est-à-dire que ce qui nous a intéressé dans cette approche-là, c'est qu'on est toujours en rapport avec l'apothéose. On n'est pas seulement avec cette idée de déchirement, de catastrophe finale, etc. On est à un tournant dans lequel, finalement, selon la position qu'on occupe ou le regard qu'on porte, on peut le voir dans une direction positive ou négative et on peut prendre l'embranchement qui nous mènera vers des solutions ou pas.
Alors, finalement, les apocalypses présentées par les anthropologues, parce que c'est vrai qu'avant d'y aller, on parle d'apocalypse, on imagine qu'on va arriver dans une scénographie trash avec toutes sortes de catastrophes climatiques, ce qu'on imagine au cinéma souvent. Et puis, on a cette salle de réflexion. Quels sont les apocalypses aujourd'hui racontés par les anthropologues dans cette salle blanche?
Alors, il y a différents thèmes qui ont été abordés. Le sida, par exemple, qui a été une épidémie dès les années 80, qui a posé d'énormes problèmes à la science, qui n'a pas trouvé de réponse, qui a reposé complètement toute la question de la sexualité. Donc, c'est quelque chose qui déborde complètement l'idée de la maladie, hein, et qui a eu des conséquences, justement, dans les deux directions, avec une stabilisation relative aujourd'hui. Ce qui se passe dans le monde musulman aujourd'hui, hein, on avait un anthropologue qui était en Égypte en juin, lorsque...
Pendant le printemps. après le printemps arabe.
Il avait déjà suivi les événements du 25 janvier, effectivement, qui ont donné finalement lieu à la fin. Et il nous a raconté la figure du martyr, qu'on a l'habitude de voir ici comme une personne qui nous échappe parce qu'il fait exploser une foule et on comprend absolument pas. Et là, soudain, on avait des gens qui s'opposaient sans armes et qui donnaient leur vie pour une cause. Et ça, je pense, ça donnait tout d'un coup une toute autre image de ces populations. L'économie qui part dans tous les sens. Alors, on a la chance d'avoir une économiste à l'Institut d'Ethnologie, Hélène Hertz, qui a analysé la figure du trader comme étant le bouc émissaire du présent. Hein, mais elle rappelle finalement que c'est des gens qui font leur boulot dans un système où on les a mis au centre.
Mmh. Et puis, il y a le nucléaire, bien sûr.
Il y a Tchernobyl qui a été un peu à la base de mon envie de travailler avec ces anthropologues parce que j'avais suivi le mémoire de licence de Maud Reitz, qui a développé une très belle réflexion sur la manière de recycler quelque chose qui vous a échappé. Donc c'est un Tchernobyl qui est en train de prendre une autre direction que ce lieu mortifère, qu'il est toujours, mais en fait, qui est aussi visité par des touristes. On vit des paradoxes tout à fait étranges là-bas, au niveau d'une sorte de renaissance de quelque chose.
Elle n'a pas passé beaucoup de temps
dans Tchernobyl, parce qu'en fait, ça reste dangereux, mais dans la région, je dirais, où elle a passé aussi beaucoup de temps à réfléchir sur ce qu'elle voyait sur place. Et ensuite, il y a encore une réflexion sur la migration.
Voilà,
le migrant est assimilé par le jeune ethnologue qui en a parlé à un zombie, c'est-à-dire quelqu'un qu'on refoule, qu'on enferme, qu'on trie, qu'on parque. Et la question aussi de l'esthétique et de...
La mort de l'art. L'art est-il toujours vivant?
La fin de l'art en tant que question qu'on lance, est-ce que vous pensez que quelque chose autour de la fin de l'art se joue? On nous a tous unanimement répondu que c'était absurde, cette idée, comme si là, dans le domaine de l'art, on ne pouvait pas poser la question de la fin. Mais bon, il est posé autrement, c'est-à-dire c'est des bouleversements, on va dire, dont on parle, c'est-à-dire des choses qui nous mènent ailleurs. Et c'est clair que là, l'histoire de l'art est pleine de ces moments où, tout d'un coup, on est mené ailleurs.
Donc, au fond, cet après-apocalypse, c'est de mettre en évidence tout ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans notre monde.
Ce qui fonctionne pas d'une part, mais ce qui aussi doit ou est en train de changer, c'est-à-dire ce qui, secoué par le fait que ça ne fonctionne pas, nous amène à nous poser des questions. C'est ce que Virilio, justement, appelle.
Paul Virilio, qu'on entendra tout à l'heure.
Tout à l'heure, et qu'on entend dans une des salles, qui nous rappelle que nous sommes des sociétés qui avons à gérer le risque. Et qui ne savons peut-être pas encore tout à fait le faire. Mais c'est pas du catastrophisme. C'est juste un esprit relativement réaliste et sain par rapport à toutes les bombes qu'on a amorcées.
Alors, les uns et les autres, au cœur de vous, je disais, en décembre 2012, on aura peut-être une vague inquiétude. Est-ce que vous avez une inquiétude profonde en face de l'évolution de ce monde, en face de tous ces dangers? Est-ce que ce sont des choses qui peuvent vous empêcher de dormir et vous préoccuper vraiment intensément, Marc-Olivier Gonzette?
Alors, à titre personnel, je mentirais en disant que j'ai aucune espèce d'inquiétude et que je suis en sérénité absolue. Mais je pense que ça sert à rien.
Qu'est-ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui?
Je pense que c'est quand même du côté de l'économie et de l'écologie. Ce rapport d'hyper-exploitation de quelque chose qui est en train de nous filer entre les doigts. J'ai peur de la gestion de l'eau, j'ai peur de la gestion un peu idiote des dernières ressources énergétiques et de ce que ça peut sous-entendre après dans les conflits entre humains, bien sûr. Parce qu'au fond, c'est l'humain qui m'importe et qui me fait peur. J'ai visité avec les étudiants en ethnologie Berlin la semaine dernière. On a revu une partie des horreurs que Berlin nous amène à revoir, et je dois dire que de la perspective de retrouver des situations qui mèneraient des sociétés...
En particulier, un musée en particulier.
Alors, la topographie de la terreur, qui est au centre, qui parle en fait de cette manière qu'ont les nazis d'installer durablement un régime aberrant. Et se dire que des humains ont pu, dans une situation historique donnée, construire un système aussi abominable vous fait redouter. Alors là, je dirais, et nous dit soyez attentifs. Empêchons à tout prix que des choses pareilles se réinstallent.
Isabelle, la préoccupation anxiogène qui occupe peut-être quelques-unes de vos nuits.
Mm-hmm. Ben, c'est un peu la même chose que Marc-Olivier. C'est clair, on se pose plein de questions. J'ai pas vraiment peur pour l'humanité en soi, mais pour nous, je pense qu'il va y avoir d'énormément des changements aussi, point de vue les sociétés qui vont de plus en plus se séparer, donc riches et pauvres, donc des questions comme ça. Et nous, c'est une réflexion qu'on fait à travers le travail, donc. Pour nous, c'était juste une suite logique à faire notre propre, donc on l'appelle Bastocalypse, donc parce que c'est notre propre apocalypse. Donc ça, c'était une manière pour nous de travailler les angoisses qu'on ressent, bien sûr. Mais en même temps, c'était une suite logique parce qu'on a créé nos propres personnages, on a créé nos propres villes, nos propres univers. Donc c'était juste logique qu'un jour ou un autre, qu'on s'approche à l'apocalypse.
On racontera comment vous avez préparé cette fresque de 53 mètres qu'on peut voir au musée d'ethnographie de Neuchâtel. François Burlan se dit, ça va être mon tour de répondre à la question. Mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qui vous angoisse, vous, François Burlan?
Moi, c'est Burlan. La fin. Ma propre apocalypse, c'est la fin de mes proches. Ça, je trouve, c'est la plus terrible. Puis autrement, suite à la dernière conversation qu'on avait avec Marc-Olivier et Maud Reist, ça m'a mis devant un abîme incroyable, les propos qu'elle tenait sur Tchernobyl. Parce que c'était étonnant, quand j'ai construit le sous-marin, c'était pendant Fukushima. Donc c'était très étrange de faire ce truc-là, nucléaire, qui servait, mais pas méchant, mais symbolique, pendant le tsunami de Fukushima. Ouais. Puis juste après, des amis japonais sont arrivés à la maison. Et ça résonnait très fort. Enfin, ce que eux m'ont dit, ce qu'a dit Maud Reist. Maud Reist disait qu'en gros, ce qu'on mesure pas avec l'atome, avec Tchernobyl, c'est que c'est une fin sans fin. Il n'y a pas d'après Tchernobyl. Il n'y a pas de demain. Qu'est-ce qu'on fait demain? Mes amis japonais, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, le tsunami, c'est rien. Ça, c'est rien. On peut reconstruire. C'est pas un problème. On a perdu des proches, enfin, etc. Tout est par terre, mais on peut relever tout ça. Mais ce truc indicible, c'est ce mal absolu qu'est l'atome, là, ce truc nucléaire, ça m'a foutu. Parce que toi, tu disais, je crois pas à la fin des temps. Puis il me dit, c'est vrai, la fin des temps, ça n'existe pas. Mais ça existe à cause de Tchernobyl. Cette fin, son fin. C'est fou. Moi, ça me fout dans un état, d'un abîme de perplexité, quoi. Vraiment. Voilà. Alors, c'est un peu autour de ça que je pense beaucoup ces temps. Et puis, cette expo, elle a soulevé cette question, là, qui me préoccupe beaucoup, beaucoup. Ouais.
Alors, tous nos invités autour de cette table, on va vous retrouver après la chanson. L'inforoute après la chanson. Après la chanson. Et puis, nous partirons aux côtés de Lydia Gabor, explorer l'apocalypse dans le monde religieux.
Rien n'est joué sur la première.
Yeah.
Voilà une reprise de Bachung par Bébé Boon et des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute de contournement de Genève, la voie de gauche est fermée dans le tunnel de Vernier en direction de la France en raison d'un problème technique. Nous évoquons l'exposition du musée d'ethnographie de Neuchâtel, What Are You Doing After the Apocalypse, avec le conservateur et deux artistes invités. Juste avant de retrouver l'interlocuteur de Lydia Gabor, Marc-Olivier, qu'est-ce que ça veut dire le mot apocalypse ?
Alors, ça ne signifie pas quelque chose de dramatique en soi, ça signifie dévoilement, révélation. C'est le fait, sans doute, qu'on vive dans une société sans Dieu, c'est-à-dire sans peut-être cet espoir que juste après ce moment de révélation, bien, il y a l'accès à la vie éternelle, qui a marqué les esprits au sens, maintenant, on le voit plutôt comme une catastrophe que comme un événement.
Possibilité de renaître.
Mais il y a toujours cette idée d'apothéose qui était la vision chrétienne, qui est collé au terme d'Apocalypse.
C'est un petit peu ce que vous a raconté le prêtre que vous avez suivi, Lydia Gabor.
Alors oui, moi je me suis rendue aussi dans un très très bel endroit, puisque c'était l'abbaye de Saint-Maurice qui a 1500 ans. Et là, nous allons découvrir des vitraux en haut de l'abbaye. Ce sont des vitraux modernes qui ont été faits juste avant l'an 2000, comme par hasard. Notre guide est frère chanoine, donc Marcel Durer, bibliste passionné et spécialiste de l'Apocalypse. On va parcourir avec lui ces vitraux. Et pour vous donner une idée, ce sont des vitraux abstraits, donc ce sont des couleurs, des taches de couleurs qui évoluent tout au long de notre visite.
Nous, on avait imaginé des dragons.
Oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Et en fait, tout s'exprime juste par le rouge, le bleu, le gris et le jaune. Le jaune qui représente, comme tout le monde peut l'imaginer, le royaume des cieux. Donc, en fait, l'épisode qui a été choisi pour ces, ça il faut le savoir aussi pour ces vitraux abstraits, ce sont les 24 vieillards qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Explication,
voilà,
Marcel
Durer. Pour ceux qui connaissent par cœur Apocalypse.
Et là, nous sommes à l'abbaye de Saint-Maurice. Deux mots sur ce lieu très sacré.
Alors, c'est un lieu qui a été fondé en 515 par un roi Burgonde, Saint-Sigismond. Et bien sûr, on va bientôt fêter ici 1500 ans de présence en 2015.
Alors, en fait, nous nous rencontrons ici car je voulais découvrir ces vitraux qui symboliquement évoquent l'Apocalypse.
Ces vitraux ont été faits par Jean-Pierre Coutane, artiste de Saint-Maurice. Et ils ont été posés en 1999. Alors, l'artiste s'est inspiré d'une phrase d'Apocalypse. Hein. Les élus ont passé l'épreuve et ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Hein, donc, c'est ça le verset de l'Apocalypse. Alors, ce verset, il a essayé de le représenter ici de façon abstraite, avec des couleurs rouges, bien sûr aussi du jaune qui dit le royaume.
Alors les couleurs qu'on peut voir, on va parler un peu de la symbolique des couleurs, c'est du gris, du blanc, du rouge et du jaune. Est-ce que chacune de ces couleurs a une force ?
Si on se réfère à l'Apocalypse, le sang représente la violence, hein, elle représente la mort, représente vraiment la violence. Mais en même temps, le sang, c'est aussi ce qui symbolise le don de la vie, hein, l'agneau verse son sang pour le salut du monde et de tous les peuples. Donc on a cette perspective de salut universel qui est proposée et qui est réalisée par l'agneau, par le Christ.
Et le jaune ?
Alors le jaune, on peut y voir la lumière du royaume. Hein, parce qu'évidemment, plus on avance dans la nef, plus on aura une présence du jaune. Et le royaume, c'est bien sûr la pleine réalisation de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous.
L'Apocalypse implique aussi qu'il y a un après, c'est-à-dire que voilà, il y aura un certain nombre d'épreuves et ensuite un après, ça sera une nouvelle terre, un nouveau ciel. Donc il y a un sentiment de après ces épreuves, d'un renouveau.
Alors tout à fait, c'est un livre d'espérance. Alors peut-être ça aussi, c'est un message qu'on peut donner aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a plutôt l'impression, réchauffement climatique, crise économique, tout va à volo. L'Apocalypse voit ces choses de façon très réaliste. En Apocalypse 18, au jugement de Babylone, on dit que tout peut tomber en un instant. Donc on a tout à fait un regard tout à fait réaliste sur l'économie, sur les pouvoirs, hein, y compris sur ce qui se passe dans le monde des arts. Tout ça peut tomber du jour au lendemain. Mais en même temps, il y a une espérance. Cette espérance, c'est que Dieu va pouvoir intervenir dans ce monde. Et puis la Jérusalem, la ville, la Jérusalem nouvelle, elle descend du ciel. Il y a un des anciens qui se trouve autour du trône. Il faut imaginer une cour céleste. Et en fait, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et il répondit, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Ils sont élus, donc ils sont, si vous voulez, à l'image du Christ. Et ils peuvent se tenir debout devant le trône de Dieu. Je crois que c'est très important, cette station debout, c'est-à-dire que, au fond, un élu, c'est quelqu'un qui a la pleine stature d'être humain, d'homme et de femme, et on peut se tenir en face du roi, en face de Dieu lui-même.
Mais avant, il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves.
Les épreuves, elles sont, c'est des épreuves de la vie. Bien sûr, vous savez, dans notre vie, il y a toujours des choix à faire. Et quand on fait un choix, il faut essayer de choisir le bon chemin.
Mais ça veut dire aussi que traversent tout ça les gens qui n'ont pas perdu quelque part une sorte de spiritualité. Donc ils arrivent à traverser toutes ces épreuves. Mais il y a aussi les autres qui vont être punis quand même.
Bien sûr, il y a un jugement. Le jugement, c'est un discernement. C'est-à-dire que si quelqu'un fait du tort à l'autre, exploite l'autre, opprime l'autre, à la fin des temps, nous avons un jugement, on parlera ici du jugement dernier, qui viendra réhabiliter celui qui était opprimé, oppressé, le pauvre, etc. Et en même temps, dire parfois, ceux qui ont fait du mal, eh bien, ils sont, entre guillemets, hors jeu et condamnés.
Quand on représente l'Apocalypse dans un lieu saint, pourquoi on le fait? Est-ce que c'est pour avertir les gens, ou les rendre conscients de ce qu'ils sont en train de faire? C'est pour faire peur?
Non, dans toutes les abbayes et dans toutes les cathédrales, c'est un rappel. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'autrefois, les gens connaissaient le texte. Et en fond, quand on voit un chapiteau ou quand on voit un vitrail, eh bien, on est rappelé au texte qu'on est censé connaître. Donc, on voit la représentation du Samaritain, donc on pense au bon Samaritain, à la parabole, parce qu'on la connaît.
Et puis l'Apocalypse, c'est la même chose.
Alors l'Apocalypse, c'est la même chose. Bon, peut-être le texte, mais c'est comme une invitation à lire le texte, parce que c'est le texte qui est la référence.
Frère Marcel Durer, je crois qu'on doit quitter l'intérieur de l'abbaye de Saint-Maurice, car on dérange le chant des moines avec notre bavardage. Je vous propose d'aller continuer notre discussion dehors.
Est-ce qu'on pourrait dire que ce texte de l'Apocalypse, justement, qui a aussi des épreuves qui sont montrées et tout, serait aussi un livre qui nous responsabilise? C'est-à-dire, voilà tout ce qui se passe, qui tu es là au milieu?
C'est quand même une prise de conscience dans le monde de qu'on est dans un vaisseau spatial habité, hein, cette fameuse planète bleue qu'on a vue depuis la Lune. Puis on se dit, ah ben oui, c'est notre seul vaisseau qui est là, il faut essayer. Nous sommes condamnés à vivre en frère sur cette terre, il n'y en a pas d'autre. Et puis que peut-être aussi, il faut, tenir compte que tout est limité sur la terre, est fini, et donc par rapport à l'énergie, par rapport au bien, par rapport à l'humanité, eh bien, il s'agit de gérer ça. Et donc on est responsabilisé, effectivement.
Voilà, reportage de Lydia Gabor réalisé par Carmen Algarada. L'Apocalypse des chrétiens aussi dans l'exposition Marc-Olivier Gonzette, à travers des textes.
Oui, on aime bien évidemment pousser les associations partout où elles nous mènent et on ne peut pas faire abstraction du texte de Jean. et de cette vision du premier siècle après Jésus-Christ. Donc, simplement, la question après, c'est savoir comment interpréter ce qui a été écrit. Est-ce que c'est quelque chose qui nous parle de l'époque de Néron? Est-ce que c'est quelque chose qui nous parle du millénaire, des mille ans qui ont suivi? Ou est-ce qu'on peut encore le prendre comme une sorte de vision du présent ou de notre passé récent, avec le XXe siècle? Voir alors cette vision futuriste que certains analysent en voyant des parallèles, etc., en imaginant que ça pourrait être encore devant. Nous, on prend surtout ça comme un texte, c'est-à-dire une réflexion, une symbolique qui s'exprime, qui exprime des peurs, qui exprime des visions, mais qui n'est pas à prendre au premier degré. C'est à prendre dans une certaine mesure pour nous comme une fiction qu'on peut comparer à d'autres fictions, qu'elles soient littéraires ou scientifiques.
Un texte qui persiste, malheureusement, vous dites comme un texte uniquement, mais qui laisse des traces dans nos têtes, parce que l'idée de punition, quand il y a un cataclysme, on a de la peine. Certains d'entre nous ont de la peine à l'oublier. Cette idée de punition.
Et d'injustice, oui, oui. Sans doute. Mais là, à nouveau, on est dans un type de punition, je pense, qui n'est pas comparable à celle dont parlerait le jugement dernier. D'ailleurs, dans certaines visions chrétiennes, il n'y a plus de punis. Donc,
on va tous au paradis.
On va tous au paradis, comme le dit la chanson. Donc, nous, dans l'expo, on ne va pas jusque-là. C'est-à-dire, on en reste un petit peu avec les contenus des analyses qu'on fait nos proches, qu'on fait les artistes, et on essaye de tourner, mais en le liant, évidemment, par exemple, l'espace qu'on a appelé autour de l'extase blanche, qui est un espace très très lumineux, eh bien, on y a placé un texte de l'Apocalypse qui parle de lumière. Et dans ce même espace, il y a Tchernobyl qui est mentionné. Et là, je crois que vous l'avez entre les mains, vous pouvez peut-être...
Le troisième ange fit sonner sa trompette et du ciel, un astre immense tomba, brûlant comme une torche. Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Son nom est Absinthe. Le tiers des eaux devint de l'absinthe et beaucoup d'hommes moururent à cause des eaux qui étaient devenues amères. C'est celui-là auquel
voilà,
vous pensez.
Absolument. Alors là, c'est Maud Reitz qui l'a choisi tout à fait librement pour le mettre dans son tableau de Tchernobyl. C'est-à-dire, elle s'est offert le droit de relier. Alors, ce serait une thèse légèrement passéiste, plus présentiste. Ce serait quelque chose qu'on aurait derrière nous, déjà, cette histoire de l'absinthe. Non, c'est surtout un clin d'œil qu'elle fait sur cette présence dans des textes parallèles de visions, comme ça, de visions qui finalement se rapprochent des choses qu'on vit. Les textes, c'est des espaces de projection. C'est toujours celui qui lit, qui projette dessus. C'est comme pour les tableaux. On projette soi-même, on projette ses peurs, on projette ses analyses dessus.
Alors, parlons maintenant plus amplement, Isabelle, de votre travail. Donc, voilà, ça c'est le micro qui... c'est un joli son, ça montre qu'on est en direct et qu'on ne coupera pas au montage. C'est Isabelle, elle, et M.S. Bastian, deux artistes, si vous nous rejoignez maintenant, qui sont présents au musée d'ethnographie de Neuchâtel, biennois, qui nous permettent, dès le début de l'exposition, d'entrer dans un univers apocalyptique, et je le redis, 52 mètres de fresques, avec toutes sortes d'images. Comment est-ce que vous avez travaillé, Isabelle, elle, avec votre compagnon pour nourrir ce travail qui a duré longtemps, j'ai l'impression.
Donc depuis le début jusqu'à ce qu'au résultat qu'on voit là, ça a mis bien une dizaine d'années. Donc ça a commencé par les recherches.
Alors qu'est-ce qu'on cherche ?
On cherche partout. Donc nous, on se sert de toute manière de tous les domaines, de tous les siècles, de tous les temps, de tous les médias. Donc on va dans l'art historique, dans l'art contemporain,
dans Guernica,
partout. On cite et de toute manière dans toute l'œuvre qu'on fait depuis 25 ans, c'est toujours les citations, les hommages. Donc ça a été un fil rouge à travers toute l'œuvre. Et là, on fait la même chose. On va dans les publicités, on va dans les films, et on fait pas de, on différente pas entre de la haute culture, de la basse culture, de la publicité. On se sert de tout ce qui avait pour nous la notion justement d'apocalyptique. On a tout collecté. Et il y a peut-être, en 2007, on a commencé de poser ça sur des toiles et ça nous a pris 3 ans. Donc, l'œuvre que vous voyez au musée ethnographique, donc 3 ans de travail sur ces toiles que vous voyez.
Pour dessiner aussi. Beaucoup, voilà. Avec un trait. On va demander à François Burland de nous raconter comment il perçoit cette fresque. Parce que vous avez toujours les bons mots, François.
Non.
Comment est-ce que vous la percevez?
Moi, je suis d'une jalousie folle. Je trouve que c'est d'une beauté totale. Mais c'est un monde qui m'est très proche. On se connaît depuis très longtemps avec Isabelle et Bastien.
Qui était punk, me disiez vous en antenne.
Méchant punk, tout rouge.
Et il n'est pas méchant.
Non,
le travail, oui.
Non, mais le travail. Moi, j'adore quoi, ce mélange de tous les symboles, de toutes les.
Mais on en décrit quelques-uns de ces symboles qu'on voit, Marc-Olivier Gonzette.
Bah, par exemple, je crois que la toute première toile, il y a les deux tours, sauf erreur.
Voilà, ça c'est un symbole. Si on voulait créer une œuvre. Et 100 ans, donc pas qu'elle soit intemporelle, mais ça, on ne pouvait pas s'en passer. Donc les deux tours, c'est clair, c'est devenu un symbole au moment où ça s'est passé.
Je crois qu'il y a Guernica tout près, effectivement.
Il y a Guernica, Posada, le dessinateur des squelettes mexicaines. Il y a
je me souviens qu'il y a la tour de Bruegel aussi.
Il y a Bruegel, il y a du Goya, il y a du Picasso qui reprend déjà du Goya, donc il y a déjà à travers...
En bande dessinée, en quelque sorte, hein, pour
voilà,
que les
toujours
auditeurs
imaginent. Voilà, en très noir-blanc.
Autodix, Munch... Oui, oui mais effectivement, c'est BD noir-blanc, avec un trait un peu forcé, comme ça, du côté de la bande dessinée américaine, un peu, comment dire, burlesque. C'est parce que c'est pas triste.
Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on va dire aux auditeurs.
C'est plein de vie, hein, ce tableau.
C'est pas inquiétant. Enfin, si, quand même, un peu. Hein.
Bah, pour nous, il y avait les moments, quand on l'a fait, on parle totalement abstrait, on parle uniquement de flow, d'image, d'une structure, de tonalité. Et tout d'un coup, avec un certain reproche, tout d'un coup, mais tu vois de quoi on parle. Là, on parle du désastre, il y a des bombes atomiques qui tombent, il y a tout qui est en braise, il y a tout qui est foutu. Et nous, on parle de tonalité, de rythme, mais en même temps, on a eu plaisir énorme de se lancer là-dedans. Mais en même temps, on est vraiment arrivé à nos bouts de force aussi.
C'est quoi. Vrai? À ça,
oui,
ah ouais.
Oui.
Mais pourquoi?
Parce qu'on s'est surpassé avec. On n'a jamais fait un travail aussi intense qui nous a poursuivi pendant tant d'années aussi.
Et puis être dans l'apocalypse comme ça, ouais. Tout le temps.
Il faut dire aussi à côté, on a fait des tableaux colorés, le paradis pour un peu aller récupérer. Donc, mais je crois pour ça aussi, ça a gagné de force aussi parce qu'on a eu toujours un peu ce bain d'aller.
Mais c'est vrai que ça reste. Alors effectivement, si on s'attarde, on est un peu plus anxieux. Mais la première impression, c'est en effet qu'il y a quelque chose de grotesque aussi. Hein.
Mais oui, c'est un joyeux désastre, c'est magnifique.
Voilà,
ah ouais,
c'est ça. Hein. Ouais.
Et en même temps aussi, justement, on est dans l'univers des cartoons, donc de la bande dessinée, et les cartoons, ils ne meurent jamais. Donc là,
comment ça, les cartoons ne meurent jamais?
Bah, vous regardez chaque dessin animé, ils se font écraser, ils se font cabousser la tête. Cinq secondes après, ils sont nouveau là, ils sont joyeux. Donc, il n'y a pas tellement de soucis à se faire. C'est la catastrophe, mais en même temps, on en revient toujours, donc.
Alors, ce que vous avez fait aussi, et qu'on voit au musée d'ethnographie, c'est des monstres que vous collectionnez. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de monstres? Et depuis quand vous collectionnez? Et où les trouvez-vous?
Il suffit d'ouvrir les yeux. Donc, la première salle, effectivement, c'est une tout petite partie.
Alors,
de notre...
Alors, ils sont petits, hein, c'est des petits...
Et c'est une petite sélection de notre collection qui est immense, qui est remplie chaque pièce de notre atelier, de notre appartement. Oui, c'est un...
Mais quoi, c'est juste encore des images grands, petits, en plastique.
Ça commence à 100 mm et ça s'arrête à peut-être 80 cm. Donc, ils viennent de tous les continents presque. On va au marché aux puces, on va dans les magasins de jouets. Et puis, c'est... et on les retrouve justement, ils ont été modèles. Donc, on les retrouve dans la fresque.
C'est parti comment cette exposition? Et puis en plus, on sait très bien que quand on commence une exposition, si vous dites je vais collectionner les porte-clés, tout le monde vous offre des porte-clés. Donc j'imagine que ça doit être le cas maintenant, vos amis vous envahissent de monstres ou pas vraiment, parce qu'il faut que vous les choisissiez.
S'il n'y a pas que les monstres, donc c'est vraiment tout des mascottes, des figurines en plastique. Là c'est clair, on a fait une sélection qui correspond aussi avec...
Mais comment vous les avez choisis? Qu'est-ce qui leur donnait le droit d'être dans l'expo? À ceux-là qu'on voit, vert, jaune, un peu comme ça extravagant.
Parce que ce sont tous des personnages qu'on peut, dans notre imagination, ce qui peut être l'apocalypse, qu'on va les rencontrer. Donc, c'était ça, la sélection qu'on a faite.
Ils ne sont pas très effrayants, si.
Mais non, mais c'est justement ce jeu ambigu avec...
Moi, je trouve assez effrayant le clown McDonald's, par exemple.
Voilà,
ce qui
n'est pas au premier regard, vraiment, ce n'est pas conçu pour faire peur, mais en même temps, c'est le personnage le plus effrayant de tous.
Oui, c'est vrai,
mais c'est celui qui est plus proche de nous aussi.
Voilà, il a un pouvoir pas possible, donc...
Bon, on va revenir sur les jouets, parce que ça, c'est un de vos points communs aussi, avec Isabelle L. et M.S. Bastien. C'est compliqué, vos initiales, parce qu'il y en a une, c'est le prénom, et l'autre, c'est le nom, hein, c'est ça? M.S.
Bon, il faut dire justement, il y avait d'abord MS Bastian, il fait de l'art depuis 25 ans.
Depuis 25 ans, oui.
Il y a une dizaine d'années, on a fait une fusion, donc on a rajouté...
Artistique et privé.
Privé, c'était encore un peu à...
Dis pas
à...
tout.
Non, non. Et voilà, bah, ça s'est rajouté, et puis d'accord. Pour avoir un petit équilibre visuel aussi, et puis pour pouvoir... Pas trop compliqué, c'est déjà compliqué comme ça. Mais ouais.
Bon, en tout cas, on peut vous voir, on peut voir cette fresque et puis ces monstres dans l'exposition After the Apocalypse, What Are You Doing? C'est au musée d'ethnographie de Neuchâtel. Après, nous parlerons plus en détail du travail de François Burlan qui est invité aussi dans le cadre de cette exposition. Et dans une des salles, Marc-Olivier Gonzet, vous allez nous aider aussi, là encore, à faire comprendre ce qui se passe à nos auditeurs. Dans une des salles, il y a des espèces de petites marches comme ça sur lesquelles on peut appuyer ses pieds et ça déclenche des musiques.
Oui, alors ça fait partie d'une des particularités de l'expo, c'est qu'on a gardé la structure de l'exposition précédente qui était bruit. Et c'était une salle, une cale, la cale du sous-marin dans laquelle on avait stocké des sons, des bruits. Et là, on a donné simplement de tout nouveau contenu. Ça évoque plutôt un univers urbain, noir-blanc, hein, très fortement inspiré par leur couleur. Et avec eux, du reste, on a choisi les musiques de l'Apocalypse, un certain nombre. Il y en a une quinzaine, je crois, même plus. 25, oui, pardon. Mon Dieu, on est vite plein. Alors, ça va dans tous les styles, ça va de toutes les époques, et ça montre que cette préoccupation, enfin, de la fin, mais pas seulement de la fin du monde, c'est aussi la bombe, par exemple. La bombe, elle est très, très présente dans la production musicale. Ouais. Donc, c'est là autour de nous, c'est cette peur
latente.
Alors,
juste des exemples de compositeurs et de
créateurs. Brummel, par exemple, pour un dies irae du XVIe siècle. Bon, les Doors, 16e, Ariem, Gérard Palapra, oui. Une chanson des années 70 complètement absurde, pour la fin du monde, Fantavalise, etc., qui alterne avec des choses beaucoup plus contemporaines, un Penderecki, par exemple, ou bien Charles Mingus qui dit « Oh Lord, don't drop that atomic bomb on me ». Donc chacune de ces caisses, en fait, a quelque chose à nous dire d'un style musical et d'une crainte ou d'une peur. Et alors, c'est assez intéressant parce que les visiteurs, moi, j'avais peur qu'ils fassent pas attention à leurs pieds, alors parce qu'ils étaient face au tableau de MS Bastian Isabelle Hell. Et en fait, ils consomment d'abord les caisses. Ils font une sorte de parcours musical. Et puis ensuite, peu à peu, ils lèvent la tête et ils se mettent sur une caisse sans son et ils commencent à regarder autour d'eux. C'est une des méthodes que j'ai analysées.
Alors, quelquefois, quand il y a beaucoup de monde, ça fait une espèce de cacophonie parce qu'on entend toutes les musiques en même temps. Mais là, dans rien n'est joué pour évoquer cette exposition, on va entendre une des musiques que vous venez de citer. Celle-ci.
Réécoutez Rien n'est joué quand vous le souhaitez sur internet rnj.rsr.ch.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of stands the end, no safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again.
les Doors avec, j'imagine, toutes sortes de souvenirs qui affluent dans votre mémoire. Allons voir ce qui se passe encore sur la route.
Infotrafic RSR.
Un bouchon s'est formé sur l'autoroute de contournement de Lausanne entre Lausanne-Bleschrette et l'échangeur de Villars-Sainte-Croix en direction de Genève. En raison de travaux, la voie de droite est fermée sur ce tronçon. Et dans la localité de Mérin, la route de Satigny est interdite à la circulation entre la rue du Pré-Bouvier et la route du Mandement. En raison d'un accident, là aussi, une déviation est mise en place. Le temps court et nous allons plonger dans le sous-marin de François Burlan, Atomic Submarine, qui est présenté dans le cadre de l'exposition What Are You Doing After the Apocalypse à Neuchâtel au musée d'ethnographie. Donc je le redis, une sorte de cachalot immense sous-marin avec les armes de l'Union soviétique qui a été fabriqué dans un garage à Bordeaux dans un premier temps, hein, c'est bien ça.
Le garage moderne, ouais.
Voilà, avec un monsieur fantastique qu'on entend d'ailleurs sur une vidéo dans le cadre de l'exposition qui était votre, comment on dirait, Georges Kumpera, c'est qui pour vous?
Ah, il y a Georges Kumpera qui est le financier du projet.
Voilà, ça c'est le financier.
Qui est à l'origine de cette aventure, c'est-à-dire quand en parlant de mon envie de faire un sous-marin, il me dit, mais ça sert à quoi? Je lui dis, à rien, ça va rapporter quoi? Rien. Et puis il me dit, c'est génial, du coup je le finance, quoi. Et c'est parti comme ça. Puis après, il fallait trouver des partenaires, et là j'ai trouvé mon cousin Georges Favre, qui s'est greffé sur ce projet, et puis qui a tout mangé. C'était le monstre qui a pris en charge ce sous-marin, qui l'a réalisé. Parce que moi j'avais une idée comme ça, voilà, mais avec des contraintes assez compliquées. Il fallait que ce sous-marin de 18 mètres, il passe une porte de 80 cm de large 2,10 m de haut. Et puis, lui, il a résolu tous mes problèmes. Et puis, c'est un
terrain
de
terrasse. Parce qu'alors,
il y a une structure
en bois pour tenir ce...
Voilà, une cathédrale de bois, on pourrait dire, qui est magnifique. C'est dommage, on la voit pas. Un squelette de bois très, très beau, qui était poncé et inventé par mon cousin, qui nous permet de le monter, le redémonter... pas à volonté.
Alors, vous avez rien fait, ou bien vous avez vissé quand même
dérivé. Pardon pour le prochain, mais... C'est la probable qui marche. Non, j'ai avec quatre petites beurettes du sud-ouest, on a mis à la main, parce que la machine n'est jamais arrivée, 13 000 rivets, mais c'est un boulot de fou, on a tous des tendinites, j'en ai une, là, voilà.
C'est
et
là.
Puis, 3 000 vis, enfin, c'était un travail de fou, donc il faisait froid, c'était très, très physique, quoi. Très beau, très joyeux, mais c'était une sacrée aventure. Ouais.
Et ce que vous dites aussi volontiers, très beau, très joyeux, c'est que justement, les petites beurettes et les autres personnes qui vous ont aidé, sont des belles rencontres aussi. Qui sont-ils, ceux qui ont mis la main à la pâte, en dehors de votre cousin?
Ce qui était joli, c'était un petit peu tous les marginaux du sud-ouest, en fait. C'était les enfants de harkis, les enfants d'immigrés. Il y a eu des gens âgés, donc quand on est vieux, on est aussi des marginaux aujourd'hui. Hein, des anciens immigrés. Enfin, moi, je ne le vis pas comme ça, mais je trouve qu'ils sont souvent mis à côté. Il y avait des anciens immigrés italiens, polonais, qui ont travaillé sur ce sous-marin. C'est tous des gens qui ne sont pas très bien considérés dans le sud-ouest. En tout cas, quand j'étais petit, qui étaient mal vus. Les Espagnols, les Polacs, les Cocos, les Arabes, les Chinois verts, comme ils disaient, là, les Indochinois, qui ramassait les haricots là dans les champs. Et ce qui est joli, c'est que c'est tous ces gens-là qui sont embarqués sur ce navire qui était sous-marin et qui se sont appropriés. Et c'était beau parce qu'il y avait les journaux qui venaient, la télévision, les maires des villages environnants venaient admirer, enfin contempler ce sous-marin qui dépassait la ferme de chez mon cousin. Puis ça, j'ai trouvé que c'était magnifique que ce sous-marin leur appartienne plus qu'à moi aujourd'hui, en fait. Quoi.
Ça dit ça aussi. Hein, vous avez vu que ça dit ça aussi. Ouais. Alors, vous disiez les cocos. Alors, ce qu'on va préciser dans la description, c'est qu'il y a beaucoup d'insignes soviétique. Ouais. Et puis ça vous permet de revoir cette période avec vos parents ou vos grands-parents affolés par le communisme, parce que c'était ça le danger au fond à la guerre froide. C'était bon, il y avait le danger nucléaire, parce qu'on se disait s'il y en a un qui appuie sur le bouton à un moment donné,
mais c'était pas qu'un danger, parce qu'il y avait des gens qui attendaient le grand soir, quoi.
Oui,
l'arrivée des tirs rouges.
Ouais,
alors,
ouais.
Moi j'ai vécu dans un environnement où c'était peut-être plutôt où je l'ai perçu comme ça, comme la grande fin du monde, quoi.
Mais vous vous souvenez de ça vraiment? Vous avez quel âge, François Burlan?
Moi j'ai 54 ans, ouais. Donc je suis en 58, c'est la fin de l'Empire colonial français, c'est en pleine guerre froide, quoi. J'ai grandi avec ça. Mais c'est des choses que je percevais pas, donc elles font encore plus peur parce qu'elles sont pas vraiment dites.
Mais et vous puis, perceviez quoi à l'époque?
Ben, je voyais les livres militaires de mon papa où l'ennemi, c'était toujours le rouge, et pour nous expliquer comment on devait se défendre, aller se mettre sous terre avec nos abris atomiques, là, pour faire face à l'invasion rouge ou à la bombe.
Mais c'était concret, quoi, c'était
Ah, ben, bien ouais, sûr, ouais. Ben oui, puis, on a tous nos places dans des abris encore aujourd'hui, hein. Et voilà, quoi. Non, c'était une peur, diffuse et assez forte, je trouve, quoi. Et puis c'était la fin de la liberté, c'était la fin du monde libre, et puis, en plus, ces rouges, comme ils étaient derrière ce mur, c'était les étrangers les plus étranges qui existaient dans ma vie, plus que les noirs du fin fond de l'Afrique ou les fameux chinois verts là, du Lot-et-Garonne. Voilà.
Donc il y a eu l'envie de ces signes-là, hein, mais souvent sur... Parce que ce qu'on n'a pas dit à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, c'est qu'il y a eu souvent des jouets, précisément avec du matériel de récupération, qui ont été exposés dans de nombreuses galeries, à la Brut aussi, avec souvent des sigles un peu...
Comme un sur-cycle un petit peu... l'histoire du XXe siècle, en fait, voilà, qui est l'histoire... elle nous appartient tous, puisqu'on a tous des grands-parents, des cousins, des oncles, des grands-oncles qui ont vécu ce monde-là, quoi, des événements du XXe siècle. Alors, moi, sur cycle, ces symboles, ces images, qui... C'est une manière aussi de d'exorciser tous ces fantômes qui m'habitent, quoi, voilà, de parler de ma propre...
Qui vous habite vraiment encore aujourd'hui?
Ah, bah oui, j'ai fondu en larmes le jour de la présentation du sous-marin, parce que je parlais de tous les apocalypses que j'avais vus, en fait, dans ma vie, c'est tous les... J'ai grandi au milieu d'une immense poudrerie qui a jamais fonctionné, qui a été construite par le gouvernement français, dans le Lot-et-Garonne, ouais. À Sainte-Livrade. Et elle fait 500 hectares, cette poudrière qui a jamais servi. Alors, on a d'abord exproprié les paysans, puis je racontais qu'après, on a réquisitionné les Espagnols qui étaient basés dans les camps en plein air, là, sur à Elme et tout ça, au bord de la Méditerranée pour construire cette poudrière. Après, ils y sont installés dans ces baraquements. Après, sont arrivés les Juifs. Après, les pilotes polonais et russes. Après, eux, il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu? Mais il y a tout.
Donc, tout ça, ça s'est gravé.
Un Chinois, Arki. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai grandi au milieu de ces camps parce qu'ils entouraient... ils étaient les villages dans lesquels habitait ma famille. Et j'ai vu tous ces gens arriver avec leurs traditions, des mondes perdus, échoués, et qui sont fermés derrière ces barbelés, derrière ces barrières de fil de fer, quoi. Et qui, certains sont jamais ressortis, quoi. Ils ont pas voulu voir le nouveau monde dans lequel
vous
ils
vont. Vous savez, je comprends mieux, parce que je retrouvais une phrase de vous, vous dites le désert, parce qu'on l'a pas dit, vous partez souvent dans le désert, dans le Sahara, avec les Touaregs. Le désert et la peinture m'ont permis de quitter l'enfance. Je comprends mieux pourquoi vous avez eu envie de quitter cette enfance, finalement.
Ben, je l'ai quittée pour mieux la retrouver, en fait.
Oui, c'est
elle
ça.
Me quitte pas, quoi. Mais j'ai pu la transformer, en fait, tout ça. Ouais. Toutes ces peurs, toutes ces interrogations. Tous ces événements que je comprenais pas au fond, quoi, qui étaient trop forts pour moi. Ouais.
Vous êtes tous les deux, on n'a plus le temps de développer ça, je vais faire un constat, et il n'y aura pas de commentaire à faire, il faudra que je vous réinvite. Mais j'ai l'impression que vous êtes tous les deux un petit peu à part. Vous disiez tout à l'heure, Isabelle, elle, quand on est trop bande dessinée, on nous demande d'être artiste contemporain, et, enfin, un peu comme ça, hors caste. Vous aussi, vous êtes un peu hors caste.
De bon choisir mon camp, mais j'ai pas de camp.
C'est pour ça qu'on vous aime. De toute façon, on vous retrouvera probablement, parce que vous allez participer à la prochaine exposition du musée Gruyérien à Bulle. C'est tout pour aujourd'hui. Allez voir l'exposition. Merci à toute l'équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Il est 11h, c'est sur la première.